podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps.
Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps.
Cannes Football Club.
C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.
Hey, Señor Avendano. Ça va?
Nilton, un honneur. Comment ça va?
Okay, ça va. Ça fait un bail hein, qu'on n'a pas jasé officiellement et non off the record de Impact de Montréal ensemble.
Ouais, faut que je remette mon filtre parce que les femmes chat.
Ouais, oublie pas, t'es écouté. Il y a pas juste, il y a pas juste les méchants Sofiane et Nilton qui t'écoutent, donc faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire.
Ouais, le monde ne savent pas. Le monde, je pense que je suis innocent comme les autres.
Avant de parler Impact de Montréal, on a l'habitude de Sofiane et moi de faire un petit prologue. On parle de tout et de rien. Toi, ces temps-ci, tiens, on va faire comme on fait à l'habitude, Sofiane et moi. On va parler, disons, Netflix et on va pouvoir aller dans d'autres sujets un petit peu après. Des petites écoutes intéressantes de dernièrement?
D'hier, j'ai fait que ça, parce que samedi, j'avais un bachelor party.
Oh my God!
Fait que j'ai bu de 8h le matin jusqu'à 3h le matin.
Oh, habituellement, c'est de quelle heure à quelle heure?
Je commence à midi.
Ah, OK.
Non, mais honnêtement, j'étais KO hier, fait que j'écoutais juste du Netflix. Je me suis endormi devant Star Wars.
Donc, tu as commencé avec The Office, puis tu as fini avec Star Wars. Une journée classique.
Exactement. Mais attends, mais j'ai commencé une série après mon power nap. Okay. Que certains appelleraient Blackout. Mais j'ai commencé, c'était quoi? C'est End of the Fucking World, je pense.
Oh, The F-Word.
Ouais, c'est une série british. Vraiment dark, t'sais, un humour vraiment noir.
OK, donc je vais aimer.
Ouais, ça, j'allais te le proposer en plus. J'ai vraiment aimé. Ça m'a vraiment surpris, en fait.
C'est nouveau?
Je pense qu'ils l'ont sorti il y a quelques mois, mais ça a vraiment passé un peu sur radar ici. Mais j'avais vu beaucoup d'articles côté anglo par rapport à ça. Puis j'ai vraiment aidé. C'est comme, okay. c'est weird, genre. Mais c'est le fun. C'est bon weird.
Bon, mais je cherchais quelque chose. Tu sais, on vit tout le temps une espèce de moment de nostalgie après The Office. T'es jamais capable de trouver d'autres choses d'équivalent. Puis, tu sais, puis là, ces temps-ci, parlant de Dark, j'ai écouté, j'en avais parlé un peu le c'est un comédien américain.
Anthony Jeselnik.
Ouais, ça c'est malade ça.
Il est passé à Joe Rogan.
C'est vrai?
Ouais, la semaine passée,
jamais
je crois,
Joe
Rogan. Ah
oui?
Mais il est plus il chill. T'sais, il est moins dark que ses shows, évidemment. Hein.
Ouais, il sort un peu de son personnage. Là.
Ouais, exactement. Mais j'ai vu son show d'ailleurs après ta recommandation. Mm-hmm. J'ai adoré.
C'est nice.
Après 15 minutes, ma blonde est partie.
Oh, on a les mêmes blondes. Mon fils de 10 ans qui comprend absolument rien m'a juste dit: papa, t'aimes beaucoup ça, hein? Peut-être un peu trop.
j'ai adoré. C'est vrai que c'est tu sais, un rythme un peu. Moi, je l'ai comparé. Il y a un petit peu le même delivery, le rythme que genre Jean-Thomas Jobin. Oui. Mais c'est punch.
Non,
je trouve qu'il les amène d'une façon. À chaque fois, tu t'attends jamais à la chute.
Exactement. Même que ça te prend 2 secondes parce que tu fais: oh non, il est pas allé là. Oh. Mais c'est drôle.
Et des fois, tu sais, je faisais: ah, il aurait jamais été à rire, tu sais.
Il était content que ce n'était pas toi qui a pensé à cette blague-là.
Ah, c'est clair. Mais honnêtement, ça m'a surpris aussi. J'étais comme, tu sais, lui, voilà. Mais ouais, mais il faisait bien, tu sais, très habilement aussi, je trouve.
Ouais. C'est pas cheap. C'est pas vulgaire pour être vulgaire. Non, c'est pas cheap. Ouais. Nous, moi, j'ai des fois des consommations de Netflix famille, hein. Mais ce qui était très, très drôle, c'est qu'on s'est tapé les Back to the Future 1, 2, 3 avec les enfants.
Nice.
Oh, la face de mes enfants quand ils ont vu le futur, qui est 2015. Ils ont ri. Ils ont vraiment ri, là.
C'est les voitures volantes et tout.
Oh, ouais, exact. Mon gars pouvait pas comprendre que c'était vraiment ça. C'est en 85. Ouais, en 85, j'avais son âge quand le film est sorti. Donc,
Moi, je l'ai vu, il y a quoi, il y a 10 ans, 10, 11 ans?
Ouais, il y a 10 ans. Là.
Je l'ai vu à cet âge-là, moi aussi. Ma mère me l'a fait écouter, les trois. J'avais bien aimé aussi. Hein.
Mais c'est pas évident, hein. Tu comprends pas tout. À cet âge-là, le pauvre, il était mêlé. Là. Le doc, ouais. Là, 3 fois le doc partout. On l'écoutait avec mes beaux-parents et même mon beau-père était un peu mêlé. Donc, il faut avoir, entre 15 et 55 ans. En dehors de ce gap-là, il faut des explications et des pauses.
Puis le dernier est un peu bizarre, non? C'est comme un western. Là.
Ouais.
Il n'est pas mauvais, mais...
C'est correct, là. Ouais. Mais c'est bien, tu sais, c'est une vraie trilogie où ils ont décidé à la fin que tu détruis le char. T'sais, désolé pour les spoilers, mais...
En même temps, si vous ne l'avez pas vu,
ouais, c'est
le temps.
OK. Tu me laisses encore un peu de chance avec les Game of Thrones?
Ouais, non, ça va. Moi, j'aime pas ça, spoil le monde.
Ah.
C'est ça m'est arrivé quelques fois. Puis c'est pour ça en fait que j'écoutais toutes les Games of Thrones les dimanches live maintenant. Avant, je les écoutais durant la semaine.
C'est vrai, tu nous avais averti il y a une fois que t'as pas pu l'écouter, puis tu nous as mis un hold de 24 heures. Mais bon, moi je pouvais rien te spoiler. Mais j'inventais des spoilers.
C'est clair, tu peux même pas aller sur Instagram, sur Twitter, sur Nangag, rien. J'ai fait bien, on travaille, tout le monde criait les spoilers partout. C'est bon, j'ai écouté live.
Sinon, en dehors de ça, le sport, toi, t'es un gros fan de basket, donc tu suis le vibe un peu. Es-tu surpris par l'entrain? Il y a vraiment une folie basket montréalaise. Je sais pas si en dehors de la ville de Montréal, c'est aussi fort, mais es-tu surpris de voir cette vague-là à Montréal sur du basket?
Un peu, ben oui, mais en même temps, oui et non, parce que je veux dire, moi, depuis que je suis au secondaire, je joue au basket tout le temps. T'sais, à l'école, on joue toujours au basket. C'est sûr qu'on n'écoutait pas trop le basket, mais tu sais, on jouait tout le temps. Mm-hmm. Je connais beaucoup de monde qui ont joué souvent, tu sais, même José et toi, vous jouez aussi.
Mm-hmm.
Tu sais, beaucoup de monde joue au basket. Fait que là, vu que c'est Toronto qui sont les plus proches, qui sont en train de gagner, qui sont en finale, qui ont une très bonne saison. Déjà, l'année dernière, ils avaient une excellente saison. Ça me surprend un peu, mais en même temps, non, parce que tout le monde l'a depuis très jeune, tout le monde joue.
C'est vraiment une génération qui est en train de se rendre compte que la génération précédente tripait basket puis était peut-être pas au courant.
Mais tu sais, je me rends compte que ma génération, on aime beaucoup, tu sais, les personnages, tu sais, les Floyd, les Conor McGregor. Là, il y a, tu sais, des LeBron James, il y a des Kawhi, tu sais, on va pas se mentir.
Ouais, c'est tellement ça, tu sais, le premier clash à Montréal qu'on a eu avec ce que tu viens de dire, c'est Piqué Souban.
Ah, 100%.
C'est un personnage, il y a une génération qui a absolument rien compris du phénomène. Il y a là une autre génération qui est habituée avec ces personnages de basket qui voyaient aucun problème. C'est le premier choc qu'on a eu à Montréal, hein, avec
beaucoup de monde de ma génération ont droppé sur les Canadiens quand ils ont tué de Piqué. Tu sais, par frustration, par le fait de dire, tu sais, on l'a une super vedette, nous aussi, tu sais, je veux pas parler de questions sportives, mais tu sais, on a notre LeBron James ici, là. Tu sais, on a le gars qui parle puis qui parle avant, mais que sur la patinoire, il back ce qu'il dit. Puis ouais, c'est exactement ça. Puis on peut se mentir aussi, t'as Drake qui est là aussi, qui est très présent, ça amène beaucoup. Mais tu sais, comme je te disais, samedi, je suis rentré très tard chez nous, mais je marchais sur Saint-Laurent, puis ça criait Raptors, Toronto, partout. Ça m'a surpris un peu. Là,
Moi, un truc qui m'a surpris, puis j'ai pas backé l'information, mais je l'ai vu une fois, j'imagine que ça c'est vrai, c'est qu'il y a eu aucune arrestation à Toronto. Tu sais, on est tout le temps habitué à Montréal. Tu sais, la dernière fois que Montréal a gagné une série, je pense que c'était le bordel sur Sainte-Catherine. C'est un autre type de crowd, tout ça. Puis même autour, tu sais, tout le monde sait où je travaille. Puis sérieusement, tout le monde a hâte à la game des Raptors. On voit un entrée aussi dans les ventes de périsportifs. Sérieusement, j'ai hâte de voir si là, pour la première fois de l'histoire du pari sportif, est-ce qu'on va avoir plus de ventes basket que hockey pour les finales? J'ai vraiment hâte. C'est proche là, pour l'instant. La vibe là, est tellement du côté, tu sais, oui, c'est local, oui, c'est Toronto, mais il y a, comme tu as dit, il y a une histoire assez incroyable qui est en train de se produire. Puis j'ai vu des trucs sur Instagram qui est super drôle où tout le monde dit... Tout le monde sort des super arguments, tu sais, par exemple, Toronto a fini meilleure fiche, Toronto a battu sans Kawhi Leonard, Golden State. Tu sais, il sort plein d'arguments pourquoi Toronto pourrait gagner, puis à la fin, c'est écrit Golden State en 4.
Ouais, ça, tu vois, c'est un gros pattern dans les playoffs de l'NBA, là. Que ça arrive toujours, c'est genre ce running gag-là, tu sais, comme l'année passée, tu sais, LeBron, c'est le meilleur joueur tous les temps, non. Golden State en 4, ça c'est fini de même, tu sais. Mais honnêtement, Toronto, tu sais, Kevin Durant va pas être là le premier match, Boogie Cousin est blessé. Kawhi, honnêtement, pour moi, il vient de le montrer, là. C'est lui le meilleur joueur de la ligue en ce moment.
C'est fou.
Fait que si t'as ce gars-là dans ton équipe, tout peut arriver. Tu sais, je pense pas qu'ils vont gagner, c'est pas les favoris, même s'ils ont l'avantage du terrain. Mais s'il y a une fenêtre, c'est maintenant.
Mais toi, moi, je m'y connais pas là. C'est, j'écoute le basket comme si j'écoutais un film. Je lay down, puis je regarde et enjoy. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment pas l'œil pour le basket. C'est un rythme différent. Tu sais, c'est même pas le rythme du hockey. C'est totalement différent. Puis, tu sais, moi, j'étais comme tous les Québécois où j'aimais pas ça le basket parce que à la fin, il faut juste écouter deux minutes. Alors, mais ce que j'ai appris dans les deux dernières semaines, ben plus que ça, là, depuis les playoffs, ce que j'ai appris, je me questionne pourquoi j'aime ça tout d'un coup. Puis une des réponses que j'ai obtenues, c'est que à tout moment au basket, tu sais, oui, n'importe, c'est un panier, ça reste deux ou trois points. Tu sais, c'est pas wow comme statistique. Ouais. Mais à tout moment, tu peux avoir un wow moment.
Ah oui, bien
il
oui.
peut arriver des trucs, même si c'est juste deux ou trois points. C'est ce geste-là, ce panier-là, et tu le sais, tout le monde comprend que c'est un revirement de momentum, c'est un statement. Puis le basket a tellement d'occasions de spectacles. Tu sais, ce que le hockey a perdu avec le temps, tu sais, le hockey pourrait être aussi spectaculaire, mais au hockey, on s'est organisé pour nuire au spectacle, ou nuire aux athlètes, nuire aux stars. Au basket, c'est pas ça. On me donne tout le territoire, tout le plancher est donné aux athlètes talentueux, là. C'est vraiment, c'est une belle réflexion à avoir.
Un clairement, puis tu sais, le build-up, tu sais. Mettons au soccer, mettons la rivalité Messi-Cristiano, il n'y en a pas vraiment. T'sais, sur le terrain, même quand c'était Barça-Real, ils ne jouent pas contre vraiment. C'est, chacun sont de leur bord. Mais au basket, il y a beaucoup de narratives, beaucoup de qui est le meilleur. T'sais, par exemple, là, la discussion, c'est Giannis ou c'est Kawhi le meilleur. Puis là, Kawhi, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris. Pendant tous les matchs, il s'est mis face à lui. Puis il a dit, c'est beau, tu veux que tu es le meilleur, il faut que tu passes à travers moi. Puis ça, dans aucun sport, ça existe. Des 1 contre 1 clairs comme ça, là. Ça existe pas. Dans le basket, ça existe. Puis normalement, Kawhi, il prendrait pas Giannis. C'est pas sa position, mais il s'est dit, tu sais, moi, je vais le faire. C'est comme si Cristiano, il s'était dit durant un match, je vais faire du pressing sur Messi pendant 90 minutes. Sûr, ça arrivera jamais au soccer. Ça existe pas.
Exact. C'est moins propice.
C'est un autre sport, tu sais. Mais là, ça existe, genre. Tu sais, c'est un sport individuel, mais dans un collectif. Puis ça aussi, c'est le fun, tu sais. Je veux dire, il y a, mettons, LeBron James qui prend le numéro 23 parce qu'il dit que je vais courir après Jordan. Il y a Kobe Bryant qui change son numéro 24.
C'est des personnages, comme tu dis. Ils créent une histoire eux-mêmes.
Oui, tu sais, Kobe, quand il a pris le numéro 24, parce qu'il dit, moi, je suis meilleur que Jordan, fait que je prends 23 plus 1, tu sais. Fait que, tu sais, plein d'affaires comme ça, c'est le fun. Puis la Ligue les laisse parler aussi. Même, ils encouragent ça. Puis, tu sais, ça, c'est le fun. Là. Ça crée quelque chose. Puis comme tu as dit, là, tu peux le montrer. Là, quand Kawhi a dunké dans la face à Giannis, ça fait le tour du monde.
Bon, hein. Mais là, va falloir parler de l'impact maintenant.
C'est un podcast soccer.
Oui, c'est ce que moi, je t'ai demandé de venir, oui, exactement, parler impact. Donc, on va terminer maintenant le prologue NBA Netflix pour passer à notre bleu, blanc, noir montréalais. Bonjour tout le monde, bienvenue au CCPP Couscous Piri Piri à la sauce mexicaine cette semaine. Je suis avec Alec Avendano. Salut Alec, comment ça va?
En pleine forme éteinte, hein?
Ça va. On a eu, comme j'imagine vous avez entendu avant, un gros long prologue de trop de minutes sur d'autres choses que du foot. Et là, on va passer au sujet qui vous intéresse probablement beaucoup plus, c'est-à-dire l'impact de Montréal. Une défaite, comme j'ai dit, je vais faire ici encore mon petit name dropping au 91-9. Une défaite de 4-2 aux allures de 4-0. Ou voire plus.
Ouais.
Une fois qu'on finit le match, là, on est tellement déçu du match, on regarde le pointage, on dit ah, finalement c'était juste 4-2, mais non, hein, on n'a jamais été proche dans ce match-là.
Ben, honnêtement, c'est ce qui m'a un peu surpris. Moi, j'ai pas vu le match du tout. Puis je voyais sur Twitter, j'ai vu 4-2, puis je voyais sur Twitter personne dire 4-2, c'est pas super. Puis je me suis dit c'est louche. D'habitude, il y a toujours, on cherche toujours. Tu sais, honnêtement, c'est comprenable. Honnêtement, 4-2 contre LAFC, ça va là. Tu sais, c'est un match sans Piet en plus. Même avec Piet, en fait, c'était presque normal de perdre. Mais ouais, j'ai revu le match. Puis effectivement, comme tu as dit, deux buts très très opportunistes et surtout d'autre côté, ils ont raté trois quatre très très belles opportunités. Là.
Exact. Donc à la mi-temps, c'était 3-0 avec des buts de Benitez. Ben un but de Benitez. Bush a tiré sur Benitez Ramirez. Bush a tiré sur Ramirez. Ensuite, Carlos Vela a profité d'un beau jeu collectif pour faire 2-0 à la 28e. Trois minutes plus tard, un autre jeu collectif. Là, c'est Blessing qui en profite. À ce moment-là, il y a Jorge Okwongo, un autre, qui se blesse. Retour de la deuxième mi-temps, Vela qui fait une belle place, une belle, c'est quoi? C'était un corner, oui, un corner.
Ouais, corner
ouais. Ouais, sur Blackmon, il était tout seul. Ouais. C'était 4-0. Ouais. On a profité pour sortir Piatti de là pour éviter une blessure. Puis finalement, il paraît que la blessure est de retour. On a donné les premières minutes de 2019 à Ken Kroliki. Après quelques... Non, avant le changement de Jackson Hamel, il y a eu un centre de Urruti dans la surface qui était dévié par Segura. Donc non, ça ne compte pas pour un but. Non, il a simplement centré, d'accord. Donc voilà. Et à la fin du match, quand même, ça fait deux fois que Jackson Hamel est assez... j'allais dire intelligent, c'est peut-être un peu fort, mais malin, mettons, pour aller chercher le penalty sur une belle passe de Tider. Et lui, et finalement, c'est lui qui la met dedans pour un 4-2. Terminer un match sans milieu défensif, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre une belle claquette. Comment t'as trouvé le choix tactique de Rémi Garde?
Ben, je pense que c'était correct. Je pense pas que, tu sais, avec les joueurs qu'il y avait, je pense qu'ils pouvaient faire plus. Moi, honnêtement, je m'attendais au 3-5-2, ou 5-3-2 plutôt, avec peut-être un Broguillard qui a plus de coffre que Sagna. C'est vrai que une ligne de 4 face à des... Tu sais, honnêtement, Atlanta. Quand, justement, LAFC, je trouve qu'ils attaquent comme Atlanta. Ouais. Je veux dire, ils ont 4-5 joueurs en zone offensive sans arrêt.
Toujours.
Mais après, tu mets 5 défenseurs, tu t'abandonnes l'idée de toucher un ballon, là. Mais honnêtement, le choix tactique, je pense qu'il était plus risqué. Tu sais, remplacer Azira par Piet. Finalement, Azira a été mauvais, selon moi, était en retard dans tout le match, même sur le corner, c'était son homme. Donc, le choix tactique, pour moi, il n'a pas été bon, il n'a pas été mauvais. Je pense qu'il n'a juste absolument rien changé dans le match.
Toi, aujourd'hui, après l'entraînement, Rémi Garde a parlé de laxisme, là, comme quoi certains joueurs abandonnaient trop rapidement sur le terrain. Il donnait les exemples des duels aériens. Quand tu parles de ça, je ne sais pas qui vise principalement, parce que de la tête, il n'y a personne qui s'essaye anyway, depuis toujours dans cette équipe-là, à part les défenseurs centraux. Donc, est-ce que c'est... je pense pas qu'il vise right à là, si c'est un gars honnête, qui se donne au maximum, c'est pas tout le temps les meilleures décisions, mais c'est quoi, est-ce qu'il est en train de viser Diallo, mais c'est pas vraiment sur des duels aériens qu'il y a les buts. Non, on le sent un peu énervé, là, Rémi Garde.
Ouais, clairement, mais honnêtement, quand je vois l'impact, où c'est frustrant, je pense, c'est quand on a le ballon, il se complique la vie, tu sais, Tider, quand il a la balle, il fait 4 crochets, Piatti essaie de déjouer
tout
le
monde. Mais
il
n'y a pas le choix, personne court autour de lui. Moi, c'était un gros clash entre les deux équipes. Comme tu disais tantôt, il y avait pratiquement tout le temps 4, des fois 5 joueurs dans la surface. Si Vela avait le ballon, c'est celui qui court le moins, mais c'est pas grave, c'est celui qui est le plus talentueux avec le ballon dans les pieds. Il y a des options partout, à gauche, à droite. Il y a des gars qui dézonent totalement. Puis c'est pour ça que... Puis ça répond à plusieurs questions qu'on a eues concernant le schéma tactique. C'est pour ça que moi... C'est sûr que c'est après coup, mais j'avais déjà avancé un peu la théorie que pour ce match-là, il fallait aller à 5 défenseurs dans le schéma 3-4-3 parce que justement, on n'est pas très discipliné au niveau marquage. On se fait prendre souvent dans les dézonages, un Diallo qui avance, un right à l'heure. Ça aurait été très, très utile, mais on aurait sauvé probablement beaucoup de ballons où il était limite hors jeu avec un Camacho qui traîne derrière en libéraux pour de luxe, mais un petit libéraux pour ramasser des ballons perdus, tu sais.
C'est pas fou. En fait, moi, ce qui m'a impressionné de l'AFC, c'est comment ça bougeait au milieu de terrain. Comme tu as dit, tout le monde changeait de poste. Tu sais, Vela joue à droite. Oui, c'est fou, comme tu as dit, Vela court jamais, mais il était toujours tout seul parce que ça bougeait beaucoup devant lui. Je pense que moi, j'aurais peut-être même rajouté un milieu. Tu sais, descendre vraiment à Zira un peu plus. Puis, tu sais, pourquoi pas essayer un Chouanière au milieu avec eux, un milieu à 4 ou un milieu, une ligne de 4. Mais c'est vrai que, tu sais, Piatti, quand il est défendu, il nous a aidé, mais il a pas fait tout le match. Kwanku, même chose. Mais encore une fois, je pense que Tider Chaumet jouait trop. Et des fois, il brisait les lignes à chaque fois. Là. T'sais, à chaque fois, ça passait à Vela, Blessing ou à Rossi, les yeux fermés. Je pense que notre milieu était pas assez uni, pas assez solide. C'est peut-être là, peut-être l'erreur tactique. Là. Tider et Chaumet étaient beaucoup trop. Là.
Moi, ce qui commence à m'inquiéter, on vante beaucoup Rémi Garde, sa structure défensive, mais je vois pas d'amélioration offensive dans ce club-là. Je veux dire, ce que tu viens de dire, Tider, trop, à côté d'Urruti. un piètre qui, là, on lui fait un peu plus, mais on voyait que c'était clairement, tu sais, c'était, il était conditionné dans sa tête. Une fois qu'il y a le ballon, il faisait que les balancer à gauche, à droite. Il n'y avait pas le premier réflexe de regarder devant. Pourquoi? Parce que probablement qu'il n'y a pas cette consigne-là, mais aussi parce qu'il n'y a pas les options. LAFC, ils ont clairement un plan avec le ballon. Une fois qu'il y a le ballon, il y a des mouvements autour. Tyder, une fois qu'il y a le ballon, moi, je trouve que les gens, un peu sévère sur Tyler. C'est devenu le souffre-douleur populaire. T'sais, on a décidé d'épargner certains joueurs comme Urruti parce qu'il court. Et là, on a décidé que Tyler allait devenir la victime de choix populaire. Je dis pas qu'il est bon là, dans un match. Mais il est pas plus mauvais que d'autres autour de lui. Là.
Non, clairement. Mais en fait, comme tu as dit, t'sais, Tyler qui prend la balle, qui regarde par terre, puis qui fonce, c'est clairement pas son choix numéro un. Là. C'est sûr qu'il aimerait ça jouer une touche, puis il aimerait ça faire des... Tu sais, la passe qu'il a fait à Jackson, comme tu l'as dit, Jackson a fait un appel, puis lui a mis en profondeur, ça faisait un pénalty.
Exact, puis la phrase, le bouclé de ta phrase, c'est « il fait un appel », puis l'appel, il est fait où? Il est fait dans la surface.
Ouais, puis en profondeur, tu sais, souvent, soit Piatti, Tyler, ça joue arrêté. Puis, honnêtement, ce que tu dis, je suis vraiment d'accord. Offensivement, c'est que cette équipe-là a pas évolué depuis que Remigard est là. Est-ce que peut-être que ça sont pas assez bons pour suivre les consignes? Je sais, je suis pas aux entraînements, je suis pas dans le vestiaire. Mais quand les joueurs ont la balle, c'est de l'improvisation de A à Z, là, j'ai l'impression à chaque fois. Il y a quelques consignes que des fois qu'on joue à la maison, on voit, mais le match contre Nouvelle-Angleterre, qu'on fait 0-0 à la maison. Pour moi, c'est là qu'on a vu que l'Impact n'a pas de schéma vraiment organisé offensivement.
Oui, puis un des symptômes, tout de suite qu'on a vu quand Omar Brownie est arrivé à Montréal, c'est une fameuse passe qu'il envoie dans la profondeur parce qu'il vient de recevoir le ballon d'Azira. Il est convaincu qu'il va faire le 1-2 avec lui vers l'avant. Il envoie le ballon vers l'avant. Non, il n'y a personne qui a suivi. Il y a Urruti qui est venu s'appuyer sur lui vers en descendant vers le milieu au lieu de proposer une solution dans la surface. Azira n'a pas monté. Et les combinaisons offensives, là, il faut qu'il y ait un pattern. Puis ne pas en voir, je comprends pas. C'est un entraîneur d'expérience. Je peux pas croire qu'il n'y a pas ces consignes-là. Si elles sont comme ça, oubliées pendant un match, parce que dès qu'ils prennent un but, c'est la catastrophe. Dès que Piatti rate une occasion claire autour de la 15e minute, c'est fini, il n'y a plus rien. Puis encore là, tu l'as très bien dit, c'est toujours des individualités, c'est toujours des... Tu sais, il n'y a pas de combinaison. On espère qu'une chimie va s'opérer en 2-3 joueurs parce qu'ils parlent la même langue. ça devient pas mal du wishful thinking. Là.
Ouais, mais c'est surtout, j'ai l'impression qu'il veut pas prendre de but puis compter sur un exploit devant. Et là, je pense que ça va être l'équipe qui va être fait pour ça, parce que si t'as Piatti en forme enfin un jour à gauche et Brownie à droite, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour ce style-là. C'est pas le plus beau jeu du tout. Là. Personnellement, j'ai pas vraiment de fun en regardant le match de l'Impact.
Ça, c'est un débat qu'on a eu il y a très longtemps, Sofiane et moi, dans le sens où au niveau spectacle, on s'emmerde. On s'est fait un peu ramasser là-dessus parce qu'à l'époque, on était bien classés, puis c'était ce qui comptait le plus. Mais ça n'a toujours pas changé. Là, on est en train de descendre au classement. On utilise les nombres de matchs pour expliquer pourquoi on descend au classement. Mais pendant que les nombres de matchs nous donnaient les points pour être en haut du classement, on oubliait ces données-là. Mais après, il faut pas se le demander. Pourquoi il y a moins de monde au stade? Pourquoi on n'est pas capable d'aller chercher un nouveau public? Et on a peut-être un élément de réponse là.
Moi, c'est un débat aussi que j'ai eu avec Mike pour le Grenade Podcast avec le Barça. Comme je lui disais, les trophées à la fin ou les victoires, ou c'est pas nous qui les soulèvent, les trophées, c'est pas nous qui a la prime de victoire. Moi, tu sais, on paye des billets de saison pour voir un beau jeu quand on est au stade, tu sais. Je me rappelle quand Brownie, son premier match, avait fait son petit festival de 3-4 fans, tout le monde avait applaudi. Puis quelqu'un m'a répondu sur Twitter, non, mais on est content parce qu'on est premier. Je dis, mais sur le coup, personne n'a regardé son téléphone puis a dit, on est premier, on applaudit. Tu sais, tout le monde a applaudi les feintes du joueur, un petit moment créatif. Pourquoi on aime Piatti? Parce qu'il te fait des contrôles des fois où tu te dis, mais comment il a fait? Tu sais, comment il est sorti de là? Puis avec Rémi Garde, j'ai l'impression qu'en fait, l'année dernière, il voulait instaurer quelque chose. Et que là, cette année, il s'est dit, je veux juste prendre le moins de buts possible puis essayer de gagner, tu sais, des 1-0, des 2-1. Des choses comme ça, et ça marchait bien. Mais là, ça commence à être prévisible. Et surtout, une équipe qui attaque pas, l'autre côté, ben, comme l'AFC, ils ont attaqué Toulon sans vraiment avoir peur des contre-attaques parce qu'on devient prévisible à la fin.
Non, on n'est pas trop, trop dangereux, exact. Bon, on va passer aux questions. Il y en a plusieurs qui étaient justement sur le schéma tactique. Il y a Steph qui nous demandait si c'était une erreur d'y aller en 4-3-3. Je pense qu'on a déjà un peu répondu. Oui. Plusieurs questions concernant Tyder. Il y a Maxime Tremblay qui nous demande quoi faire avec Tyder qui est de plus en plus mauvais depuis quelques matchs. J'ai juste reprendre une autre question qu'il y avait sur Tyder. Est-ce que c'était la dernière fois qu'on voyait Tyder au...
Wow.
Patrick White, si NEPAC va chercher un vrai 10 cet été, est-il possible que Tyder subit des conséquences? Je vois davantage un 4-2-3-1 avec Piet et Chaumy. Chaumy, c'est la nouvelle sensation. On voit pas.
Creliquier.
Oui, c'est ça. Je suis vraiment étonné du vibe négatif autour de Tyder. Est-ce que c'est... malheureusement, Sophia n'est pas là pour faire son rant de 15 minutes. Ça serait le fun. Là, je pourrais aller.
Il nous l'avait dit, Nilton. Il nous l'avait dit.
Est-ce que les gens analysent avec la mauvaise grille les performances de Tyder?
Ben, en fait, je pense qu'on lui donne, encore une fois, c'est l'histoire d'Impact, on lui donne un rôle qui est peut-être pas le meilleur pour lui. Pour peut-être répondre à la dernière question, moi, j'aimerais voir un vrai meneur de jeu avec Tyder et Piet, tu sais. Parce que Shawn a l'air bon, parce que ses forces, c'est ce qui nous manque, mais à la fin de la journée, il est pas si bon que ça non plus. Puis Tyder, je pense qu'il doit prendre un rôle offensif, chose que c'est pas ses qualités. Après, même si j'ai déjà la phrase de Sofiane qui me dit oui, mais il est pas là pour ça. Ben malheureusement, je pense que oui. Même si c'est pas sa faute, c'est un joueur désigné au milieu de terrain. On a besoin qu'il nous amène plus offensivement. Après, ceux qui disent qu'il doit partir ou quoi que ce soit, c'est sévère un peu, comme tu l'as dit, parce que Tyder, c'est le genre de milieu que tout ce qu'il fait bien, c'est ce qu'on voit le moins sur le terrain.
Exactement. Et même la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que, de ce que j'entends, on s'enligne pas pour aller chercher un milieu créatif. Là, on veut un autre box-to-box. On veut vraiment jouer. On veut trouver une doublure à Tyder, pas pour le remplacer, mais pour le jumeler. C'est pas une super mauvaise idée dans le sens où trouver une alternative pure offensive, c'est peut-être dangereux pour cette équipe-là dans le sens où Tyder a pas le profil puis a pas une mentalité hyper défensive. Forcément, on le voit. Il est aspiré vers l'avant. Donc, si on se retrouve avec un autre milieu de terrain qui est maintenant à droite d'Orouti, en plus d'avoir Tyder à gauche d'Orouti, c'est beaucoup de travail pour un Piet tout seul. Puis Piet, il lui reste combien de matchs avant la pause de la Gold Cup? Un ou deux matchs?
Ouais, ça fait un peu de vie à Azira en 6. En tout cas, personnellement, moi, ça m'a pas rassuré du tout. Tu sais, passer plusieurs matchs avec Azira seul comme 6. C'est pas rassurant. Là.
Ouais, mais on a personne d'autre.
Ouais, non, mais c'est ça. Ben, comme tu disais, personne d'autre. Puis, tu sais, on va pas se mentir, Azira, c'était un gars qui était à USL à la base.
Ouais, ouais. Ouais.
C'est, faut pas l'oublier, là. Comme oui, il nous a bien dépanné, mais il était en USL pour une raison.
Dr. Foot nous demande quelle serait la recette pour avoir la moitié de l'ambiance du stade de LAFC.
Il faut amener des Mexicains. Amène Carlos Vela, puis c'est bon. Chicharito.
Ouais,
mais il marque des buts.
Tu sais, souvent j'entends qu'on a un problème de marketing, on cible pas les bonnes personnes à Montréal. Bon, faudrait qu'on m'explique si c'est quoi notre marketing first. C'est quoi qu'on cible? Non, mais sérieusement, c'est quoi notre marketing? Quand on met un panneau, on a tellement réclamé le maudit panneau au stade, au pont Jean-Cartier. Il a été là. Le panneau est là, OK? Tout le monde qui en voulait un panneau, on l'a mis là pendant un mois. On n'a pas eu une foule en haut de 18 000. C'est quoi notre marketing? C'est quoi notre axe de communication à l'Impact de Montréal? Il est inconnu, là. On veut juste être présent, avoir une visibilité. L'expérience client dans au stade, c'est quoi l'expérience qu'on a là?
Non, pas grand-chose. Effectivement.
Il y a les ultras qui sont là avec leur pure et dure ambiance. De l'autre côté, t'as les 1642 qui essayent d'apporter des éléments toujours nouveaux. La cloche qui a été l'idée du siècle à Montréal, une chance qu'elle est là, sinon il se passerait rien d'autre. Mais... l'accès, quoi faire? LAFC, comme tu as dit, ils ont clairement bâti, en tout cas, le premier move qu'ils ont fait, c'est bâtir une équipe existante.
Ouais, mais en même temps, c'est une question de culture aussi. Tu sais, je disais ça à la blague, mais il y a beaucoup de Mexicains, beaucoup de Latinos à Los Angeles. Puis là-bas, c'est normal d'aller voir un match de foot puis chanter, tu sais, de première minute à dernière minute. Stade Saputo, moi, je suis dans les ultras, puis j'entends plus le monde chialer sur les drapeaux parce qu'ils voient rien ou parce que le monde est debout, ou parce qu'ils disent ils doivent taper dans leurs mains qu'autre chose. Tu sais, je veux dire, quand nous, on va voir les Canadiens de Montréal, on attend la rondelle sur les bâtons, faire clac, clac, parce que c'est silencieux, là.
Tout à fait.
C'est une culture qui est différente aussi. Faut pas, tu sais, le monde dit, c'est quand qu'on va voir l'AFC, c'est quand on va voir Dortmund, c'est, faut pas comparer avec ces ambiances-là non plus. Après, ce qui doit, je pense, selon moi, être l'attrait numéro un, c'est le spectacle sur le terrain.
100% d'accord.
Quand on avait Didier, quand on avait Piatti qui mettait 22 buts, quand Piatti est rentré, là, j'ai eu des frissons, j'étais tellement heureux pour lui, mais aussi, tu vois qu'on aime les joueurs excitants ici, là. Tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Puis, tu sais, c'était pas son jubilé, là. C'était juste qu'il revenait de blessure. Tu sais, on l'a manqué 2 mois, puis on dirait que c'était la fin du monde. Fou, hein, le spectacle sur le terrain, ça doit être là. Tu sais, c'est la culture ici de soccer. Il y en a moyen. Puis là, si t'as une équipe qui joue 0-0 à la maison, c'est plate.
Non, exact. Moi, je suis très, très tanné d'entendre que Montréal aime les équipes gagnantes, là. Je connais pas une ville qui aime les losers. C'est tellement idiot de sortir cet argument-là. Toutes les équipes dans tous les sports essayent de bâtir des équipes gagnantes. C'est clair et net. On essaye de faire les playoffs. Tout le monde essaye de faire ça. Ouais. C'est clair, clair. La clé, c'est de convaincre quelqu'un de venir assister à un show.
Oui.
C'est basic, là. Et si tu essayes juste de boucher des trous dans un effectif, c'est idiot. C'est occasions clair. Totalement ratées. Je veux dire, aller chercher Camacho, aller chercher Novillo, ça sert à quoi de dépenser 1,5 million avec ces joueurs? Et c'est juste en salaire, sans les transferts. C'est de l'argent dépensé tellement à la mauvaise place. Tu sais, Montréal aime aussi des joueurs locaux. Tu sais, donc...
Il y a Piet Innovation à chaque fois, à tous les matchs.
C'était un inconnu il y a 2 ans. Montréal a jamais compris ces opportunités-là. Tu te souviens en début MLS comment ils ont manqué le bateau avec Océan?
Ah ben oui, 100%, c'était donné, tu sais. Mais l'impact, faut qu'on lui donne. Tu sais, Didier, c'est lui qui a dit je veux jouer à Montréal, j'ai refusé plus d'argent à Chicago, je veux venir ici. Piatti, on l'a eu genre au tirage. Puis c'est lui qui nous amène le plus de monde, tu sais. Puis genre, puis tu sais, comme tu disais, là, la seule fois qu'on a eu un vrai axe de communication, c'était la Ligue des Champions CONCACAF. Puis c'est une des meilleures ambiances que j'ai jamais vues.
Tout à fait.
Avec le but porteur, la finale contre America. Quand tu rentres, puis le stade est rempli, puis tout le monde fait la mosaïque, je me sentais comme en Europe. Tu sais, je me sentais comme les matchs que je vois à la télé depuis que je suis petit, puis je me dis un jour, je veux vivre ça. Mais je l'ai vécu à Montréal.
Combien
la
de fois?
La finale contre Toronto.
Et quand tu vas dans le stade, on voit pratiquement aucune. T'sais, il faut se forcer pour. Tu sais, on y va à toutes les semaines là-bas. Ils sont où les rappels de ce match-là?
Bah, si on nous le pense, c'est perdu. Ça. C'était le fun. Honnêtement, je me rappelle à la finale, tu sais. Je me disais, on va peut-être plus jamais le revivre, mais sur le coup, je me suis dit, ben non, ça va arriver, tu sais, on est là une fois. Puis là, ben, c'est oublié déjà.
Moi, j'ai peur qu'il y ait un essoufflement populaire pour l'Impact de Montréal. Même ceux qui le suivaient dans les premières années le suivent moins. On est moins excités pour les matchs. On n'hésite pas à prendre la solution. On va l'enregistrer, mais on va l'écouter plus tard s'il y a d'autres choses à faire. T'sais, si toi et moi, on n'écoute pas toujours les matchs live, il y a un signe. T'sais, c'est qu'il
non,
se passe,
c'est
qu'il non, se
c'est
passe
clair,
quelque chose. Bon, prochaine question.
Non, c'est clair.
Kevin Duska, il s'est pris à plusieurs reprises pour formuler sa question. On le voyait qu'il était énervé, le pauvre. Je vais essayer de prendre sa première formulation, puis si tu comprends pas, je vais le résumer en trois mots. En regardant le calendrier, l'infirmerie et la tendance, les playoffs, ça ne semble pas plus si certain que ça. Je ne dis pas nos playoffs, je dis simplement que même la 7e position pourrait être compliquée dans l'Est.
Ouais, ben c'est au début de la saison, je me rappelle qu'on était premier, on se disait, bon, c'est quasiment fait. Mais là, on est tombé un peu.
Notre chance, c'est que les équipes qui devaient courir après nous, ils sont pas bons. C'est pas parce que Toronto est en bas, que les New York est en bas, qu'Atlanta, ça, on le sait qu'ils vont nous dépasser. T'sais. Fait que finalement, on se bat pour quoi? On se bat pour la 6e, 7e position. Et ouais. À ce moment-là, c'est qui nos concurrents? Bon, il y a Philadelphie qui a pris une avance. Mais après, il y a Chicago, Columbus, Orlando, Cincinnati, New England. Je vois pas deux équipes. Tu sais, je vois pas parmi Chicago, Columbus, Orlando, New England, Cincinnati. Il faudrait qu'il y en ait deux là-dedans qui nous dépassent. Je pense, à moins d'une catastrophe, à moins que Piatti est encore blessé pour 2 mois, puis qu'on n'est pas capable d'avoir les fameuses victoires à domicile, je vois pas comment ça peut arriver.
Non, c'est vrai, on a déjà 4 victoires sur la route, hein. C'est plus qu'en fait, on a plus de victoires, on fait égalité avec Portland, mais sinon, on est l'équipe qui a le plus de victoires dans la MLS, c'est quand même fou. À l'extérieur, bien sûr. Fait que, tu sais, c'est quand même des points, beaucoup, beaucoup de bons points qu'on a pris. Après, encore une fois, ça fait beaucoup d'années qu'on assume beaucoup trop facilement qu'à la maison, on va gagner tous les matchs, qu'en réalité, montre autre chose. Faut que l'impact commence à marquer, là. Je veux dire, on a 17 buts, 23 buts accordés, c'est vraiment pas bon. Mais effectivement, un peu comme Kevin l'a mentionné, ça devient de plus en plus difficile. Tu sais, je veux dire, Chicago ont des bons joueurs. C'est beaucoup d'en fait. Chicago, Columbus, ça ressemble beaucoup à l'impact, tu sais. C'est beaucoup d'individualité. Ça doute un peu, tu sais, à la maison, à l'extérieur. Mais ça va être difficile. Mais comme tu l'as dit, c'est sûr qu'on est en tête du classement, puis on va peut-être finir top 4. Ça, c'est fini, là. Ça a duré 2-3 semaines. Mais là, si on vise la 6e, 7e place. Puis d'un autre côté, c'est là notre place aussi, là.
Je pense que oui, tu sais, si on met pas, si notre recrutement puis notre budget est pas plus avancé que ça, je vois pas comment qu'on peut viser plus haut. LP nous demande, quand on regarde une équipe comme LA et leurs moyens financiers, le stade, effectif, est-ce que l'Impact sera capable de suivre la parade dans cette MLS qui avance à vitesse grand V?
Ben non. Si les choses sont comme ça maintenant, non, tu sais. Après, c'est sûr que bon, si quelqu'un, mettons, rajoute de l'argent, je sais pas, quand quelqu'un rachète l'Impact, je sais pas, avec des moyens plus gros, mais à part de ça, tu sais, Saputo a acheté Bologne. Là, il n'y a pas toute l'attention financière sur un club, maintenant il y en a 2. Je vois pas comment il peut mettre autant d'argent que les autres, là.
Non, mais on l'a vu aussi, tu sais, dans les dernières semaines, quand Gilmore était avec le commissaire Garber, on le voit que Montréal est en réflexion aussi pour s'ajuster puis faire une vraie mise à jour avec les nouvelles normes de la MLS. Le stade, il était sympathique, mais en moins de 10 ans, il est devenu un peu passé d'acte. C'est ça. Ils sont pas capables d'aller générer de tous les revenus nécessaires qu'un stade de soccer devrait générer.
Mais c'est vrai que ça a progressé vite, hein?
Ben oui, parce que
les nouveaux stades, là.
Oui, et ce qui est inquiétant, c'est que les clubs qui restent à progresser, ceux qui semblent un peu traîner de la patte peuvent devenir encore plus monstrueux, tu sais. Quand on voit un club comme Chicago, comme New England, qui traîne un peu.
Minnesota.
Un club comme un déménagement de New England à Boston avec un stade magnifique. On change le nom, ça peut être hyper, hyper, hyper fort comme équipe. Même affaire là, pour Chicago. Là. Chicago, c'est une ville merveilleuse. Là. Tu sais, c'est magnifique comme ville. Financièrement, il y a de l'argent là-dedans à faire aussi. Donc, Montréal a besoin rapidement de faire sa mise à jour au niveau de l'industrie qui a, oui, avancé d'une façon exceptionnelle. Là, puis, je pense que c'est pour ça qu'il a été embauché. De toute façon, Gilmore, c'est pas pour d'autres choses que ça, là.
Comme tu l'as dit, c'est fini la ligue où tu peux juste patcher puis t'en sortir un peu, là. Maintenant, tout le monde a des projets sportifs tellement bien gérés que si tu suis pas ça, c'est le fond des classements qui t'attend, là.
Philippe nous demande, peut-on considérer la deuxième demi comme une victoire morale étant donné qu'on s'était fait un peu dominer? Moi, j'ai dit.
Non.
Mais ils ont pas été si mauvais que ça. Ils ont juste. Ouais. Puis, je le dis, puis je me convainc pas.
Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, ils ont pas été catastrophiques, tu sais.
Non, exact.
Tu sais, je veux dire, ils ont fait le match où on s'est dit, ben, c'est à ça qu'on s'attendait un peu, puis c'est juste que l'autre équipe sont vraiment meilleures de l'autre côté.
Ouais, ils ont, puis,
c'est pas
buts,
le 7-1 qu'on s'est pris, tu sais.
Tu sais, les 2 buts à la fin, probablement qu'ils avaient levé le pied, mais tu sais, j'ai aimé le fait que, justement sur le but contre son camp, j'ai aimé que c'est un Kroliki, un Showmi faisait du pressing super haut au routier, ils en fait aussi, tu sais, ils ont apporté un élément différent. Ouais. Bon, ils ont toujours pas de finisher, mais Ouais, je pense que si c'est le genre de match où ça avait été un aller-retour puis que Atlanta avait besoin de marquer 7 buts, il l'aurait fait là.
Ben c'est ça. Si je veux dire, c'est pas un match catastrophique. Après, c'est sûr que ça fait mal au moral dans le sens où ils ont vraiment été impuissants. C'est dans le sens où ils ont joué le match puis c'était pas une fois où on s'est dit on aurait pu. Non, c'était vraiment LAFC vraiment une coche, deux coches au-dessus. Là.
Philippe nous demande aussi est-ce qu'il existe vraiment une bataille entre Broguillard et Sagna?
Moi, je pense que oui. Et je pense que même, selon moi, pour moi, Broguillard est premier dans la liste cette saison.
Broguillard, il peut-tu se débrouiller à gauche?
Je sais pas. Il faudrait voir son mauvais pied. Parce que Lovitz, moi, je le trouve très mauvais là, depuis quelques matchs.
Ça serait un bon message à envoyer à Lovitz aussi parce que... On le voit, c'est ça, on le voit un peu installé par défaut là, puis tout va bien là. J'aime beaucoup Broguillard. Tu sais, je sais pas si nous a entendu les dernières semaines. C'est un des premiers moves que je ferais avec Broguillard, c'est demander combien il coûte. Demander premièrement s'il est intéressé, essayer de lui faire comprendre comment ça serait intéressant pour lui de rester à Montréal, proche de la sélection canadienne, obtenir des minutes de qualité, puis lui dire oui. Si quelqu'un après arrive, on te laisse, la porte est ouverte pour n'importe quel départ. Mais pour ta carrière, la MLS, c'est peut-être la ligue qu'il te faut, là.
Ah, clairement. Et en plus, si jamais on le signe, il est partant dès l'année prochaine.
Tout à fait.
Tu sais, je veux dire, il est très, très bon, il est jeune.
Oh, puis on le voit qu'il est bien aussi. Il est dans son élément avec Piette, on le voit souvent dans les médias sociaux, Jackson. Rapidement, il s'est fait un peu aussi à la ville, là.
Puis le jeu de la MLS lui va bien, là. C'est très physique, lui, il est très physique, il est assez technique pour être, honnêtement, sa technique pour les latéraux, elle est au-dessus de la moyenne, facilement, physiquement aussi. Donc, pour moi, il peut devenir facilement un des meilleurs latéraux droits de la MLS, je veux dire, potentiellement. Fait que, pour sa carrière, je pense que ça serait très bon aussi, là.
Bon. Tu t'as dit le meilleur. Quand tu t'as dit meilleur de la MLS, j'ai pensé à Diallo. C'est fini, hein? C'est plus le meilleur de la MLS, Diallo, comme défenseur central.
Pour moi, il est dans les meilleurs. En fait, le truc, c'est que, le monde dit dans les meilleurs parce qu'il y a le côté qui est différent aussi. C'est un peu, moi, il fait penser à Matteo Ferri. Tu sais, il y a cette relance-là aussi qui, des fois, il fait des relances. C'est incroyable. On dirait un milieu de terrain. Mais aussi, des fois, il est un peu passif. Il est un peu nonchalant. Tu sais,
je trouve
qu'il est conscient aussi qu'il est bon, là.
Mais je le trouve un peu paresseux dans certaines phases.
Ouais, ben, je pense que pour moi, c'est pour ça qu'il est en Ligue 2. Parce que si tu regardes, mettons, tu sais, c'est facile à dire, là, mettons, si tu mettrais ses stats dans Football Manager ou dans FIFA, là, ce serait Ligue 1. Mais, comme tu as dit, il paraît ça. T'sais, il traîne la patte. T'sais, même chose, c'est un Carlos Velas pour ceux qui aiment MLS aussi. T'sais, les gars, ils ont du talent pour être meilleurs encore, mais c'est l'attitude aussi, c'est l'agressivité, c'est l'envie de faire l'effort, le deuxième effort, et effectivement, Diallo, il le fait pas tout le temps. C'est pour ça que Raitala est aussi bon à côté de lui, en fait. C'est pour ça que c'est un très bon fit.
Oui, ils sont très complémentaires. Mais c'est vrai. Je vais essayer de te lancer une courbe, là. Puis je vais juste dire un truc, là. Urruti. C'est quoi ton opinion là-dessus? Parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de débats. T'as été souvent très silencieux sur Routy, publiquement, mettons.
Mais ben, c'est vraiment blanc ou noir avec lui. Tu sais, je veux dire, c'est soit. Mais j'ai rien compris. En fait, pour moi, il est pas archi mauvais. Il est pas très bon non plus, loin de là, en fait. Mais moi, j'y ai pensé beaucoup, en fait, parce que d'un côté, tu le vois jouer, tu dis, tu sais, son pressing est utile, son but contre son camp, ça vient de son pressing, tout ça. Mais il y a quoi? Il y a un but? C'est un 9, tu dois marquer des buts.
Okay.
Un 9, c'est la position où je m'en fous si tu joues bien. Je veux que tu marques.
Pourquoi?
Si tu marques pas, t'es pas un bon 9.
Pourquoi Urruti est autant défendu par Némit, là, les partisans, les journalistes, etc.? Mm-hmm. Pourquoi il y a ce bénéfice-là du doute si fort? T'sais, on a tout entendu sur lui. Il est trop tôt, le fameux il est trop tôt. Ensuite, Piatti n'est pas là.
Genre Piatti fait des passes maintenant.
Ouais.
Il n'a jamais fait de passes aux attaquants. Les seules fois qu'il fait des passes au neuf, c'est pour qu'il lui redonne après.
Oh, et puis il est fâché. Il y a aussi Urruti, c'est un joueur de séquence. Bon, on n'a pas dit quel genre de séquence. On n'a pas dit si c'était des séquences de but ou des séquences de pas de but. Mais bon. On a tout entendu là, pour justifier Urruti. Pourquoi tu penses... Moi, je suis toujours pas capable de comprendre pourquoi il a le droit à ce bénéfice-là populaire.
Ce qu'il fait, il fait un effort, il court, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi on aime autant Shumi en ce moment, parce qu'il court, parce qu'il arrête jamais, il abandonne pas.
Tu te souviens-tu dans les premières...
Il était critiqué, hein, parce qu'il marchait. Il mettait un but chaque match, mais il marchait.
Tu te souviens-tu dans les premières années de l'Impact de Montréal, Divayo, les fameuses questions, c'est quoi la différence entre la MLS et les ligues européennes, tout ça.
Oui.
Premier truc qu'il avait dit aux journalistes, c'était « Ici, en Amérique, vous courez trop pour rien. »
Ah, mais oui, c'est ça. Je suis d'accord. Gauruti, c'est exactement ça.
Hein. Il disait souvent, c'est de l'énergie perdue. Quand t'es rendu au moment où tu dois être lucide dans ta course, soit t'es plus lucide, ou soit parce que t'as fait une course qui n'a rien servi, mais t'es plus placé au moment où ça compte. Est-ce que c'est un problème culturel parce qu'on on a une espèce de filtre nord-américain avec des sports nord-américains, puis on essaie d'adapter cette grille d'analyse-là sur un sport, ou toi et moi, on est trop fixés sur les résultats sans trop se pencher sur le comment?
Je pense à la première option. Enfin, je pense que c'est juste que dans une ligue où, justement, comme tu dis, ça court beaucoup. T'sais, c'est pour ça qu'un Sagna ou même un Nesta, à l'époque, il avait de la misère un peu. Mais, je veux dire, t'es un neuf. Prends un neuf à travers le monde. T'sais. On en parlait dans le chat tantôt quand je disais que Chicharito, c'était un Inzaghi. Inzaghi, c'était le meilleur exemple. Il était pourri de la gauche, pourri de la droite, pourri de la tête. Il était petit, il était mince, mais il marquait à chaque match. Puis c'était un très bon attaquant pour ça. Oui, Urruti, il court, il récupère des balles. C'est bien. Mais s'il récupère la balle, puis il est tout seul dans le camp offensif contre quatre défenseurs, puis il la perd, ça sert à rien. Puis là, dans le système de l'Impact, oui, il y a 3-4 passes décisives. Tu sais, je veux dire, c'est encore une fois, c'est pas un mauvais joueur.
Exact.
Mais pour l'instant, c'est très décevant parce qu'il y a uniquement un but sur penalty. Il n'y a aucun but dans le jeu. Il y a eu des chances. Et il n'y a pas beaucoup de chances. Même Mancosu, comme l'année dernière, il était en une confiance exécrable. Il y avait au moins une ou deux occasions nettes par match.
On riait de ses ratés, mais il y avait les occasions.
Mais là, justement, on riait de lui parce qu'il les ratait. Là, au routier, on se dit, il rate pas d'occasion, mais il y en a pas. Mais comme il récupère des balles, puis il n'y a pas d'occasion, fait qu'il en rate pas, ça passe bien, genre. Mais c'est comme ça, j'ai l'impression, à Montréal, on aime les gars qui font de l'effort. Comme je te disais tantôt, Drogba était critiqué, mais il marquait un but par match, puis il marquait des buts impossibles, puis il faisait des trucs que seul lui savait faire, mais il courait pas, il mettait pas la pression. Des fois, il perd la balle, il abandonnait. Piatti défend le critique quand il perd la balle, puis il chiale ou quoi que ce soit, puis il dit de mettre 15 à 20 buts pour un ailier. Le monde, c'est la MLS, je pense, c'est vraiment beaucoup, beaucoup sur l'effort, tandis que, mais pour moi, la position, parce qu'exemple, un milieu de terrain comme Taider qui avait marqué, je pense, 2-3 buts en deux matchs, en jouant des mauvais matchs, on se disait incroyable, c'est exceptionnel. Mais pour moi, un milieu de terrain, tu dois bien jouer, et si tu marques, c'est un bonus. Un 9, tu dois marquer. Si tu joues bien, c'est un bonus. Et Routy marque pas, alors pour moi, c'est très décevant.
Difficile de te contredire là-dessus. C'est rare un attaquant qui est physique, qui court, qui aligne des kilomètres puis qui marque des buts. Tu sais, vite de même, je pense à Vardy.
Ouais, Vardy. Mais tu sais, par exemple, un Eto, tu sais, aller pour Marseille, il pressait, il marquait des buts. Suarez, quand il était
à Marseille. C'était un athlète, là. C'était une machine, là.
En même temps, c'est sûr que maintenant, quand on joue avec une pointe, c'est sûr qu'il doit participer. Pour moi, Routy, ça serait peut-être meilleur à deux devant, mais encore une fois, tu sais, tout le monde sort l'exemple de Giroud.
Et
c'est le seul, hein, parce que dès que tu dis OK, nommons un autre, il n'a plus perdu aucun nom sort.
Oui, mais attends, Giroud, quand on dit Giroud, on dit quel Giroud? Celui de Chelsea ou celui de la sélection française? Là?
Parce que même Routy avec Mbappé, Griezmann, puis c'est correct aussi, il n'y a pas besoin de marquer. Là. Mais là, c'est pas le cas. T'sais. Il y a besoin de marquer, on a besoin de lui. Surtout à MLS, Fred me le disait tout le temps, ton 9 doit marquer au moins 10 à 12 buts.
Tout à fait, 100% d'accord.
Là, il y en a un. Il y en a un, tu sais. Oh, puis Piatti joue pas en plus. Fait qu'on a besoin de buts.
Je me souviens d'une discussion de Twitter avec Nicolas Martino où on blaguait, on disait t'es pas l'entraîneur, Nilton. Tu sais, mon point, c'est l'erreur de Rémi Garde, c'est de pas avoir tout fait pour aller chercher un buteur, un finisher.
Ouais, non, c'est clair.
Peu importe comment, il faut qu'il y ait un gars qui va chercher 15 buts. Si, tu sais, oui, mais Urruti, c'est le joueur de Rémi Garde, fine, c'est son joueur. Ça a été son choix de stratégie. Moi, après ça, j'ai le droit de dire t'as pris la mauvaise stratégie pour combler cette position-là. Aller mettre un Urruti dans une équipe qui a déjà énormément de misère à finir des actions, c'est une catastrophe. Puis on le voit, on est chanceux d'être bien placé. Puis c'est pas parce qu'on a fait ça jusqu'à maintenant que ça va se reproduire de nouveau. Hein, faut pas oublier qu'on, oui, on était à un but de la finale de la MLS. Hein? En début de saison, on était à un joueur de la finale de la MLS. Mm. Gang, on est vraiment très, très loin de la top qualité MLS, là.
Non, clairement. Clairement. Puis tu sais, ben, c'est ça. Moi, je pense que ça clôt le débat sur Routier. Mm. Je vous en sais. Encore une fois, c'est pas un mauvais joueur, là. C'est juste que là, il marque pas. Puis t'es un 9, tu dois marquer. C'est pas une science infuse. Si t'es 9, tu dois marquer le but. Tu dois créer des chances.
C'est pour ça que j'essaye de convaincre Sofiane depuis quelques semaines. Une solution de duct tape, là. Urruti, mets-la à côté de Taider.
Oh, je sais pas. Chamac a fini comme ça. Le pire, c'est que ça a marché. Bah, je sais pas, honnêtement. Parce que le truc, là, tout le monde le transforme en 10, genre. Mais... je veux dire, j'ai jamais vu faire. Mais non, tu pourrais. Je sais pas. J'ai jamais vu vraiment, tu sais, avoir un ballon dans un contexte où il était pressé, où il devait briser des lignes. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Et pour moi, un milieu, c'est ça la qualité très importante aussi, là, pouvoir justement faire cette passe-là pour faire avancer l'équipe. Est-ce qu'il est capable de le faire? S'il est capable, honnêtement, pourquoi pas, tu es rendu là? Surtout quand Piet va partir. Mais bon, c'est pour moi, quand ton 9, tu le payes $1 million puis il finit en 8 ou en 6, là, c'est un peu un échec. Là.
Teach Tournesol nous demande, avec 3 matchs en 8 jours qui arrivent et considérant sa contre-performance des derniers matchs, serait-il temps de donner un départ à un autre gardien que Bush?
Oui, j'aimerais ça avoir Diop au moins un match. Et pas parce que Bush est forcément mauvais.
T'es sérieux?
Mais je veux dire...
5 mois après un contrat de 300 000...
Non, mais c'est un match, juste pour voir Diop, pour faire tourner un peu. Encore une fois, Bush, pour moi, c'est pas un mauvais gardien. Il mérite d'être numéro un. Puis, oui, il fait des erreurs, mais on s'entend que c'est un gardien MLS. Il est exactement un peu en haut même de la moyenne ou dans la moyenne du gardien MLS. 3 matchs en 8 jours. Moi, j'aimerais savoir Diop un match, juste pour voir qu'est-ce qu'il vaut. Est-ce que Bush, il vieillit, il veut pas? Est-ce que Diop, on le garde dans le payroll? Est-ce qu'on va mettre Pantémis? Wow. Je pense qu'il mérite du terrain. Je vais juste voir un match. pas pour lancer un débat Bush Diop, juste pour voir Diop un match. Puis il doit jouer. Hein. Le gars, il joue jamais. Hein.
Ouais, je pense que lui, il va avoir une séquence. Non, ça arrivera jamais. Alex, ça arrivera jamais. Là.
Je pense pas que ça va arriver, mais moi, j'aimerais voir Diop un match. C'est juste pour les faire tourner. Rien contre Bush, encore une fois. Là. Mais
de toute façon, c'est vrai, il y avait une question là-dessus pour le championnat canadien. C'est le championnat de Diop. Là. On va pas utiliser Pantémis pour ce match-là. On va aller avec Diop pour le récompenser pour sa patience et ainsi de suite.
Mais encore une fois, pourquoi on met juste pas Pantémis numéro 2? Je comprends pas.
Pourquoi on est allé le chercher, point?
Ouais. Même Beaulieu. Il est à Ottawa, je pense, non?
Ouais, mais là, ouais. Ouais.
Au moins. Mais tu sais, je veux dire, moi, le numéro 2, tant qu'à avoir Diop sur le payroll, il est-tu joueur international en plus?
Non. Green Card.
Mais tant qu'à ça, moi, je mettrais Pantémis direct 12e. Si tu fais jamais jouer Diop, là, pour...
Petite question. On a vu sur Twitter comme quoi Montréal a finalement un recruteur.
Oui.
C'est un bon début? C'est assez? Qu'est-ce que ça t'a fait comme...
j'étais surpris, toi.
Surpris qu'il ait passé à l'action le club à aller chercher un recruteur ou...
Ouais, surtout que ça soit annoncé. C'est le genre de truc que moi, je pensais qu'on allait savoir, tu sais, dans 4 ans, genre. Ou qu'on allait signer le prochain joueur. Ouais, c'est notre recruteur. Ah, notre recruteur maintenant.
Mais ça n'a pas été annoncé officiellement par le club encore.
Ben, c'est Kevin l'a annoncé, non?
Oui, lui, il s'affiche clairement, là, comme.
Mais tu sais, d'après moi, il devait avoir l'accord du club, hein. Surtout connaissant l'impact. Donc, je sais pas, mais j'étais surpris, honnêtement, mais d'un côté, je me suis dit, bon, il était temps. Et de l'autre, ben, j'ai hâte d'avoir, tu sais, à quel point est-ce qu'ils vont vraiment l'écouter, est-ce que genre, tu sais, j'ai vraiment hâte quel pouvoir il va avoir dans les décisions. Mais oui, j'étais agréablement surpris, disons.
Mais déjà, tu sais, comme sa première mission, aller dans le, disons, ça peut peut-être répondre à une question de Maximus, là, qui demande le plan après Piatti, vers quel genre de joueur qu'on doit aller, essayer de recruter, tu sais, des joueurs à 2 millions ou les stars à 5-10 millions. Mais déjà voir un recruteur aller dans la Coupe du Monde U20, il me semble que ça s'enligne vers une nouvelle philosophie de recrutement, non?
Clairement, et je pense que la MLS, elle est très tentante. Tu sais, si tu as 18-19 ans et t'es pas forcément dans un grand club comme Benfica ou Monaco, des choses comme ça, ou Porto, et quelqu'un de la MLS vient te voir à Montréal, et tu te dis, un peu comme Piatti s'était dit quand il a signé ici, hein, que si tu joues très bien, tu peux finir à Miami, à LA, à New York, je pense que ça peut être très intéressant. Et ça va coûter beaucoup moins cher aussi.
Tout à fait.
Et je pense que la réponse, Joey Saputo nous l'a dit quand il a fait sa petite crise parce qu'il payait Piatti 7 millions, puis qu'il pensait même déjà le remplacer par trois joueurs pour le même prix. Je pense que ça va être ça la réponse.
Oui, je regardais le match. J'ai juste la chance de voir un match, c'est celui du Portugal U20. C'est des gars qui jouent dans les réserves, dans les équipes B de Porto, Benfica, ouais, ainsi de suite. Là-dedans, là, dans ces 20 joueurs-là, il y en a peut-être 3-4 qui vont faire des gros clubs. Sinon, le reste, c'est des bons joueurs qui pourraient vraiment avoir des belles carrières MLS et apporter un élément différent à la MLS. Il y a des petites pépites là, là.
Ouais, et la vie nord-américaine, elle est très prisée en Europe, là.
Tout à fait. Tu sais, il y a des clubs en Europe, quand tu sors des trois gros dans certains championnats, si on oublie les top 5, là, si on fait les championnats, tu sais, comme les Belges, les Portugais, les Grecs, les Turcs, tout ça, quand tu sors des 3-4 gros, l'insécurité financière, elle existe. C'est pas du tout un enjeu en Amérique du Nord, je veux dire. Tu sais.
Encore.
Tu sors de Benfica B, t'as pas nécessairement une place dans les top 3, pourquoi pas la MLS?
Donc, clairement, t'as beaucoup moins de pression aussi. Tu sais, je veux dire, Mancosu, l'année dernière, à chaque fois qu'on le présentait, il se faisait applaudir, tu sais. En Europe, il aurait lancé des rushs. Hein. Je veux dire, c'est incroyable. Le gars, il a comme deux buts. Il coûtait 800 000, puis on l'applaudissait à chaque fois. Tu sais, je veux dire, c'est tranquille un peu.
Ouais.
Tu peux te permettre de rater deux matchs, puis ça va, tu sais. Je veux dire, en Turquie, tu sais, rate deux matchs, genre.
Non.
Moi, j'aurais peur. Là. Tu ne sors pas de chez toi. Là.
Non, non. Camacho, lui, il n'a pas perdu son condo. Là. Ça va bien.
Okay. Non, il est correct. Il y a encore des verres gratuits un peu partout. Ça. Ça va bien.
Il boit. Prochaine question. Anthony Bellil nous demande qu'il a trouvé. Ah oui, il a demandé que si on n'aurait peut-être pas dû essayer Cabrera à la place d'un Diallo qui avait l'air trop naïf face à un LAFC.
Bah, je pense qu'Cabrera, ça aurait été la fin du monde.
Hein. on aurait terminé à 10.
Ouais, honnêtement, ça allait tellement vite, je pense qu'il aurait pris un rouge, honnêtement. Surtout sans Piet, je pense que Diallo, ça devient le joueur le plus important parce que qui va faire des relances si Piet n'est pas là? T'sais, déjà que Piet, comme tu as dit, des fois. Quand il brise des lignes, moi je pense qu'il est un peu underrated là-dessus. Je pense qu'il est capable de briser des lignes. Il le fait pas trop, mais il est capable de le faire. Azira peut pas le faire. Taider le fait, mais pas vraiment souvent. Chaumet moyen, Diallo il le fait. Et de la défense en plus. Je pense que c'est le joueur le plus important en ce moment de l'Impact. Faut que tu relances au pied. Parce que si tu demandes, si je joue contre l'Impact, je mets un joueur sur Diallo, puis je laisse Raitala au bout faire les relances. Là. Puis ça tombe tout dans les pieds de mes joueurs. Fait que tu sais, je veux dire, pour moi, Diallo est super important en ce moment. Peut-être Cabrera, je l'aurais mis son jour à 3. Puis même là, Cabrera, le truc, c'est que si Diallo a l'air inconstant ou pas trop inconstant, dans le fond, Cabrera, c'est pire.
Ouais, moi, j'aurais mis.
C'est le joueur inconstant.
Cabrera, comme troisième défenseur, ça va si c'est lui qui fait la pression, là. C'est qui sort de.
Exact,
se fait prendre dans le dézonage, puis que Diallo reste derrière.
Ça, ouais, c'est lui qui sort.
Ouais. Ouais, exact. Mais il peut pas être. À deux contre LA, oh boy, boy. Ça peut être un spectacle assez incroyable. Tiens, une petite dernière question. Étienne Pouliot nous demande qui va remplacer Piet pendant la Gold Cup. Krolicki ou est-ce que Chaumy et Chouanière vous ont convaincu qu'ils peuvent tenir leur bout contre les meilleurs de la MLS?
J'aimerais voir Chouanière au milieu de terrain un jour, mais je pense qu'il physiquement, il est tendre un peu. Là. Des fois, il se faisait tasser vite, un coup d'épaule. Mais le truc, c'est qu'il faut trouver un 6. Tu sais.
On n'a pas d'autre 6.
C'est ça, Chouanière peut pas jouer 6, Krolicki peut pas, je sais pas, faudrait le voir, mais je pense pas qu'il est dominant en 6. C'est Azira qui va prendre sa place, par défaut.
T'es l'Impact de Montréal, OK? La signature de Piet est due pour la fin de l'année. C'est quoi tu l'offres comme contrat?
J'ai presque envie de dire ce qu'il veut. C'est juste ça, il est tellement important sur le terrain, en dehors du terrain. C'est sûr que il va pas demander non plus 2 millions. Là. Je pense qu'il est au courant que les 6, c'est pas eux qui ont les gros contrats MLS. Puis t'es hors MLS, personne vraiment va lui donner cet argent-là, sauf peut-être Toronto. Faudrait le signer d'ailleurs avant que, mettons, Toronto se mette à lui parler ou un truc comme ça. Mais tu sais, moi, ça me dérangerait pas de sortir le chèque pour Piet, au contraire. Là.
Un chiffre.
Faudrait que je vois c'est quoi les 6, c'est quoi 3, 300 000, je pense. 300, 400 000, un truc comme ça. Ouais. Je pense autour de ça, ça ferait du sens. Là.
C'est raisonnable, là. C'est pas trop cher.
Puis après, je veux dire, il va probablement être le prochain capitaine. Puis après, je pense
qu'il est déjà. Il est déjà.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, Arthas, ça va être lui le leader. Puis je pense que ça va être quoi, 500, 600 000 après, j'imagine. Mais tu sais, je veux dire, s'il reste comme ça, il va prendre en plus de l'importance au sein de l'équipe canadienne. Ça devient un leader sur le vestiaire.
J'ai vraiment hâte de le voir en Gold Cup parce que, tu sais, si avec une sélection canadienne, mettons contre des clubs un peu plus faibles, s'il apporte son volet, parce qu'on l'a vu, il essaye de plus en plus, ballon au pied, il essaye de jouer un peu plus vers l'avant, de combiner, de prendre des risques, tout ça. S'il va chercher cette expérience-là et cette confiance-là, puis il démontre, puis contre des gros clubs, s'il est capable de démontrer que contre les États-Unis, contre le Mexique, contre Trinidad, des clubs comme ça. Si il démontre qu'il a encore évolué dans ce style-là, parce que tu sais, il a beaucoup, beaucoup joué de foot de qualité depuis 2 ans, je suis pas sûr qu'il y a pas un agent quelque part qui va l'appeler pour dire hey, ça te tente-tu un projet européen?
Ouais, je sais pas, il compte pour un étranger en Europe, si je me trompe pas.
Oui.
Je sais pas s'il réussit à avoir un passeport espagnol ou français, là. Faudrait voir ça. Mais honnêtement, tu parles du Mexique, et moi, justement, je pense que si jamais le Canada et le Mexique se retrouvent, je pense que le Canada pourrait sortir le Mexique. Je pense que ça pourrait être la grosse surprise, et puis elle va être excellente dans un match comme ça. Mexique, je pense qu'il leur manque 5 ou 6 des 11 des titulaires qui étaient à la Coupe du Monde. Période de transition. Ça va être des joueurs un peu méconnus qui vont jouer. Donc, s'il y a une surprise que le Canada peut, je pense, faire, ce serait d'avoir un résultat contre le Mexique. Peut-être pas les battre, mais au moins d'être toe-to-toe contre eux. Je pense que ça pourrait être un des gros matchs. Et Piet, honnêtement, je pense qu'il va avoir un gros tournoi. Mais comme tu l'as dit, ça peut-être pourquoi. Peut-être lui non plus veut pas parler pour renégocier le contrat avant la Gold Cup non plus. Là, peut-être parce que ça va être le tournoi là, pour lui. Hein.
Ouais, peut-être. Mais j'ai vraiment hâte à ce tournoi. C'est la première fois, je pense, de ma vie que j'ai hâte à la Gold Cup.
Parce que, comme j'ai dit tantôt, moi, si je suis Toronto avec un Bradley qui devient vieux, si l'Impact ne veut pas donner l'argent à Piet, moi, je le donne.
C'est sûr que Toronto a déjà parlé.
En plus.
Autour
en plus.
De Piet. C'est sûr, ce Toronto, ils sont fous, là. Et on voit qu'ils sont agressifs au niveau canadien. Piet, qu'il soit de Montréal ou pas, ils s'en tapent, là. C'est plus Piet qui voudra jamais faire cet affront-là, cette trahison. Jamais. Tu sais, il faudrait vraiment que ça soit l'Impact qui fasse qui passe pour les méchants, mais même l'Impact vaudra jamais. T'imagines la première décision importante de Gilmour concernant la star, ça serait de la perte. Non, non, c'est l'avenir de la concession qui est lié, là. Ouais. Moi, je serais méchant. À sa place, Piet a pas l'air d'un négociateur, ben méchant, là, mais. À sa place, là, j'irais chercher le 100 000 de plus parce que il vaut beaucoup plus que le salaire qu'il obtient. Là. Puis je parle pas de là, mais éventuellement, tu sais, mettons qu'il va chercher 300 000, il vaut quasiment 600 000 pour l'Impact de Montréal. T'sais.
Ouais, ben c'est ça exactement. Il faut aussi que vous pensiez à ça. T'sais. On peut pas juste comparer les contrats c'est dans le contexte où les joueurs le signent. T'sais, par exemple, un Piatti à 7 millions, il aurait peut-être pas eu à aller ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais c'est lui nos 80% de nos buts dans les 4 dernières années. Fait que on lui donne 7 millions, puis c'est normal. Mais tu as raison, Piet, pour moi, il pourrait chercher 600 000 aussi. C'est juste que je pense que l'Impact, je pense de ce qu'on a vu, je pense qu'ils sont bons là-dessus là, pour négocier un peu à la baisse avec les joueurs locaux.
Oui, oh, la prime maison. Les joueurs...
Ouais, tu sais, exactement. Fait que je pense qu'il va aller chercher au moins 400-450, un truc comme ça. Puis même là, il le mérite absolument.
Bon, mais je pense qu'on a fait le tour hein, pour une défaite de 4-2 feels like 4-0.
Ouais, c'était le fun. Mais honnêtement, encore une fois, c'était pas. Je m'attendais à pire comme match.
Oui, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Faut être positif.
Carlos est très très bon.
Ouais, c'est pas le seul qui est bon. Le petit Canadien aussi, là. Kane, il est pas mal.
Ouais, même Atuesta aussi. Ben, moi, je l'écoutais avec les commentateurs de LA, genre. Il comparait Iniesta tout le long. C'était un peu exagéré, mais.
Ouais, le Messi de la MLS avec l'Iniesta. Wow!
Puis, tu sais, honnêtement, c'était. Je pensais qu'on était un peu chauvin ici, là, mettons. Mais eux, là-bas, tu sais, c'était comme, ouais, l'FC, c'est un mélange de Liverpool, City, Barça. C'était comment, qui, ça?
Oh! qu'est-ce que tu veux? On est le lion du Québec.
Ouais.
Pas vraiment. OK. Bon, mais, Donc, ça conclut pas mal notre podcast CCPP sans Sofiane. On salue Sofiane qui est quoi, dans les bains ou en train d'essayer de faire d'endormir la septite ou tout simplement en train d'écouter Netflix. Probablement un film, c'est quoi, il aime ça les films scandinaves ou c'est le seul Québécois à l'avoir écouté. Donc, bon film. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Et ciao.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.